Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal parlé dont voici les titres. Le président de la CNDH s'insurge contre l'enlèvement de plus de 300 jeunes cette semaine au sud Kivu par des hommes armés identifiés comme des rebelles de l'FC M23. Paul Sampou exige la libération immédiate et sans condition de ces jeunes ainsi que la cessation des pratiques contraires au droit international humanitaire dans cette province sous occupation rebelle. Au Congo central, le pont Livoulou est sur le point de s'écrouler. Cet ouvrage relie les chefs-lieux du secteur Kakongo au poste frontalier de l'Angola, comme Mbakankonse en territoire de Lukula. Il facilite le trafic frontalier entre les chefs-lieux du secteur de Kakongo et les postes frontaliers congolo-angolais qui sont pourvoyeurs du carburant et autres produits en provenance de Cabinda. L'invité de la rédaction est Issa Saïdi Mairon, directeur du ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Il est actuellement en mission au Maniema pour vulgariser la politique nationale d'agriculture durable. À cette occasion, il invite la population à adopter les pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, essentielles pour lutter contre les changements climatiques. Encore une fois, bonjour à tous. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, s'est dit indignée par l'enlèvement de plus de 300 jeunes dans la nuit de lundi à mardi dans la commune d'Ibanda, ville de Bukavu au sud Kivu. Dans un communiqué parvenu ce jeudi à Radio Kapi, le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Sampou, affirme que ces personnes ont été kidnappées par des hommes armés identifiés comme des rebelles de la FC M23. Il exige la libération immédiate et sans condition de ces jeunes ainsi que la cessation des pratiques contraires au droit international humanitaire dans cette province sous occupation rebelle. Paul Sampou au téléphone avec Blaise Ndongala Mayanda.
La CNDH condamne avec la plus grande fermeté ces actes graves qui constituent des violations manifestes des droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République démocratique du Congo, notamment le droit à la liberté, à la sécurité et à la dignité humaine. La CNDH rappelle que de tels enlèvements collectifs s'apparente à des crimes graves du droit international pouvant être qualifiés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dès lors qu'ils s'inscrivent dans un contexte de conflit armé et visent la population civile. La CNDH exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes enlevées ainsi que la cessation de ces pratiques contraires au droit international humanitaire et aux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l'homme régulièrement ratifiés par la République démocratique du Congo depuis plusieurs années.
Restons au sud Kivu où l'église catholique de Bukavu commémore en ces mois d'octobre la mémoire de trois de ses prélats décédés au plus fort des guerres dites de libération dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces conflits ont directement touché des évêques de Bukavu, notamment Christophe Mouzihi Roy, assassiné, et Emmanuel Catalico, décédé après avoir subi des persécutions. L'abbé Justin Kunzi, directeur de la commission diocésaine Justice et Paix, appelle le peuple congolais à suivre l'exemple de ses évêques qui prônaient la paix, l'amour du prochain et le patriotisme. Il exhorte également la jeunesse à promouvoir la cohésion sociale en parole et en acte pour perpétuer la vision de ces figures emblématiques. Écoutons l'abbé Justin Kunzi au micro de Radio Kapi.
Nous faisons mémoire de ces hommes pour que les plus jeunes comprennent qu'il y a eu des hommes de Dieu, des hommes de cette province, des hommes de cette sous-région qui ont prêché la cohésion sociale en parole et en acte. Et c'est pour cela que nous devons pérenniser leur mémoire et nous devons toujours continuer à en parler dans les écoles, dans les églises, avec tout le monde. C'était des hommes ouverts à tout le monde et l'église doit toujours continuer à être ouverte vers les périphéries existentielles où les gens vivent côte à côte les mêmes réalités. Dans cette sous-région et dans ce pays ici, dans cette zone est, Nous partageons les mêmes soleils. Nous mangeons les mêmes sambaza. Nous partageons les mêmes lieux de socialisation comme les marchés et les églises. Mais aussi nous avons les mêmes défis. Les jeunes actuellement, ils ressemblent à cette génération android qui accumule une science sans conscience, qui veut vivre sans la valeur du sacrifice. Je crois que Mouziro prendrait même un fouet pour dire à ces gens, mais réveillez-vous, mettez-vous au travail, aimez votre patrie, aimez votre province, aimez vos églises, aimez vos écoles.
En Ituri, pendant ces temps, le commandant de la 32e région militaire de FARDC appelle la jeunesse à renforcer son sens du patriotisme, à tourner les dos à la guerre et aux violences qui déchirent la province depuis des années. Cela en vue de soutenir les efforts militaires pour imposer la paix. Cet appel a été lancé lors d'une conférence sur l'éveil patriotique organisée mercredi à Bounia par la direction provinciale de la réserve armée pour la défense, la RAD. Isaac Rimoyope pour plus de détails.
À Bounia, des centaines de personnes, étudiants, enseignants, agents de l'État et autres coûts sociaux ont préparé une conférence sur les thèmes 30 ans de guerre, des génocides, d'injustice et la force du patriotisme. Objectif, éveiller la conscience de la population de l'Ituri pour mettre fin à la guerre, mais aussi encourager la jeunesse à rejoindre la réserve de l'armée pour la défense, la RAD, aux côtés des FARDC. Le commandant de la 32e région militaire, le général Antoine David Mushimba.
Si nous regardons le nombre de morts, c'est trop lourd. Prenons conscience. Nous devons dire non aux exactions, non à la guerre, le patriotisme. Quand on parle de Ouazalem, ce sont des patriotes. On ne les a même pas éduqués. Lui, il dit trop, c'est trop.
Pour certains participants, les jeunes engagés dans les groupes armés devraient déposer les armes et intégrer la RAD au lieu de poursuivre les violences contre leurs propres frères. Sami Azabo, chef des travaux à l'université de Bounia.
Nous demandons à la jeunesse itourienne, réveillons-nous pour que cesse la guerre en Ituri. À tous les groupes armés de l'Ituri, déposez vos armes et rejoignez les RAD. Soyez utiles pour la République, servons la République au lieu de rester dans la brousse.
Depuis 2017, l'Ituri reste secoué par des conflits armés. Malgré les opérations militaires et les différents dialogues qui ont abouti à plusieurs accords de cessez-le-feu rarement respectés, Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Au Congo central, le pont Livoulou est sur le point de s'écrouler. Cet ouvrage stratégique est situé à Kaivemba, à une centaine de kilomètres de Matadi. Il relie les chefs-lieux du secteur Kankongo au poste frontalier de l'Angola, comme Mbakankose en territoire de Lukula. La détérioration de cette infrastructure inquiète les usagers et les notables de ces coins, car selon eux, si les autorités ne songent pas à sa réhabilitation dans un bref délai, des pertes en vies humaines pourraient être enregistrées et la région pourrait se retrouver enclavée. Les précisions avec vous, Nana Plurich-Mambo.
Plus de 50 ans après sa construction, le pont Livoulou, jeté sur la rivière portant ses mêmes noms, est sur le point de s'écrouler. Cet ouvrage facilite les trafics frontaliers entre Kaimvemba, chef-lieu du secteur de Kakongo, et les postes frontaliers congolo-angolais de Mbakakose, Yemadiyanga et Ntangu-Swalu, qui sont pourvoyeurs du carburant et autres produits en provenance de Kabinda. À ce jour, cette passerelle ne possède plus les garde-fous et présente des fissures au niveau de son tablier et de toutes ses travées. Face à son écroulement qui semble imminent, surtout avec les retours des pluies, Alphonse Loco, l'un des notables de ces coins, appelle à l'implication des autorités pour sa réhabilitation.
Si on ne songe pas à le réhabiliter dans un bref délai, ça risque de s'écrouler et il y aura de pertes en vies humaines. Raison pour laquelle nous, la population et notable de l'ancien district du Bas-Fleuve, exhortons à la reconstruction de ce pont dans le plus bref délai.
Signalons que selon Alphonse Loco, la route menant de ces postes frontaliers au chef-lieu du secteur de Kakongo est en bon état. Il est entretenu régulièrement sur fonds propres des ressortissants de cette localité, réunis en association appelée Bana Wanda Lemba en avant. Matadi, Nana Plurich Mambu, Radio Okapi.
Au terme de son périple dans le Congo central ce mercredi, la première ministre a procédé au lancement des travaux de construction de la route à péage Kwilongongo-Kimpangu. Il s'agit d'une nouvelle concession routière confiée par le gouvernement de la République au consortium China Road and Bridge Corporation et Technovia. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Ce projet structurant prévoit la modernisation des Les 96 km de pistes en terre battue transformées en une route bitumée en deux voies, ainsi que la construction d'un port sec moderne à Kipangu, à la frontière avec l'Angola. Véritable corridor stratégique, cette infrastructure renforcera les rôles du Congo central comme porte d'entrée économique de la RDC. Dans son allocution, la première ministre a rendu hommage au chef de l'État, initiateur de cette orientation stratégique. Elle a ensuite présenté à la population son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Banza Lunda, qui l'accompagnait lors de cette étape. De leur côté, les taximens qui empruntent cette voie ont salué avec enthousiasme les lancements de ces chantiers, comme indique l'un d'eux.
Le chef de l'État a pensé à nous au Congo central en décidant d'asphalter la route Gombe Sud Kimpango. Nous souffrons beaucoup lors de la saison des pluies avec des trous partout et de la boue. Et pendant la saison sèche, nous faisons face à la poussière. Nous sommes aussi contents avec la première ministre qui a pris cette initiative de construire cette route.
La mise en service de cette route réduira les coûts et les délais de transport entre la RN1 et la frontière tout en générant de nouvelles opportunités d'emploi pendant et après les travaux.
Au Maniema, l'ONG humanitaire Médecins sans frontières, MSF, annonce la fermeture fin octobre de son projet de prise en charge des victimes de violences sexuelles à Salamabila après 7 années d'activité dans la région. Initialement prévu pour 2026, ce départ de l'ONG s'est fait dans un contexte marqué par des besoins croissants, une baisse significative des financements humanitaires et une crise persistante dans l'Est de la RDC. Écoutons le représentant pays de MSF en RDC, Emmanuel Lampard, au micro de Stanislas Diomi.
Médecins sans frontières, ce mois-ci, atterrira ce projet. Alors, nous pensons d'une part que nous avons atteint les objectifs, notamment sur cette modélisation et un modèle replicable au niveau communautaire pour la prise en charge des violences sexuelles. D'autre part aussi, parce que Médecins sans frontières, certes, organisation médico-humanitaire qui n'est pas dépendant des donateurs, nous fonctionnons 100% avec fonds privés, mais la réalité de la réponse humanitaire... Pour rappel, j'ouvre une parenthèse, le plan de réponse humanitaire aujourd'hui, fin septembre, est financé à 15%. De suite, les coupes budgétaires, États-Unis et plein d'autres donateurs. Et donc, ça nous amène aussi à faire des choix difficiles. Et nous appelons les autres acteurs qui font le lien plus avec le développement aussi, de ne pas négliger, de ne pas oublier le Maniema et le Sud Maniema, et notamment le Kabambare et Saramabila. Pour notre part, nous restons présents dans le Maniema avec un dispositif de renforcement de la surveillance.
Santé encore, beaucoup de gens lavent régulièrement leurs sous-vêtements, mais... peu savent que la façon de les sécher peut jouer un rôle important pour la santé. Sécher ses lingeries au soleil, c'est une habitude simple mais qui présente de nombreux avantages. Jean-Claude Lokidile a échangé avec certains habitants de Bounia. Suivez son reportage.
Beaucoup lavent régulièrement leurs sous-vêtements, mais peu savent que la manière de les sécher peut influencer la santé. À Bounia, plusieurs habitants l'ont confirmé. Nicole Kodiango estime que le soleil reste le meilleur allié.
Si vous mettez dans des lieux humides et qu'il y a des bactéries qui ne meurent pas sous soleil, ils peuvent vous apporter des infections et d'autres maladies.
Pourtant, certaines femmes préfèrent sécher leur lingerie à l'intérieur de la maison. Cette habitante anonyme explique pourquoi.
Tu sais, il y a des femmes qui n'ont pas l'habitude d'avoir 3 ou 4 ou 5 sous-vêtements. Des fois, il en a 2. Et si c'est déjà abîmé, là, c'est difficile de laver et étaler ça dehors.
Le docteur Charles Kisamba rappelle l'action désinfectante des ultraviolets.
Les ultraviolets sont très, très, très puissants parce qu'ils détruisent les bactéries et les virus.
Mais attention, prévient Feza Drani, une autre habitante. Une exposition très longue, dit-elle, peut fragiliser les tissus et causer les irritations intimes. Autre risque signalé par le docteur Charles Kisamba.
Il y a une catégorie de mouches qui peuvent déposer des larves sur vos vêtements. Quand vous venez les porter sans repasser, vous allez faire une maladie qui se caractérise par des vers qui sont sous la peau qu'on appelle miase.
Sécher ses sous-vêtements au soleil reste donc une habitude simple mais qui demande quelques précautions. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Nord Kivu, avant d'aller plus loin, les acteurs de conservation des espèces protégées sont en deuil. La célèbre primatologue britannique Jane Goodall s'est éteinte la nuit de mercredi à jeudi à Los Angeles, en Californie, à l'âge de 91 ans. Cette scientifique de renommée mondiale a beaucoup contribué à la recherche sur la vie des grands primate. Un engagement qui lui a valu des centaines de prix, dont celui de la messagère de la paix auprès de l'ONU ainsi que le prix Nobel de la paix 2019. Sa fondation Jane Goodall Institute, lancée en 1977, finance plusieurs projets de conservation des grands singes au Nord Kivu, en particulier des chimpanzés.
Actualité internationale.
Ce 2 octobre 2025, jour des fêtes de l'indépendance, retour sur l'un des joyaux oubliés de la Première République de Guinée, l'imprimerie Patrice Lumumba. Construite en 1961, grâce à la coopération avec l'Allemagne de l'Est, elle permet alors d'imprimer livres, journaux, formulaires et fournitures scolaires distribuées jusqu'aux pays voisins. Mise au service de l'alphabétisation et de la propagande, ces machines incarnent un patrimoine aujourd'hui menacé.
L'invité.
L'invité de la rédaction est Issa Saïdi Maïran, directeur au ministère de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire. Il est actuellement en mission au Maniema pour vulgariser la politique nationale d'agriculture durable. À cette occasion, il invite la population à adopter des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, essentielles pour lutter contre les changements climatiques. Issa Saïdi Maïran s'entretient avec Florence Kizalunga.
Monsieur Issa Saïdi, bonjour.
Bonjour madame la journaliste.
Vous procédez à la vulgarisation de la politique de l'agriculture durable ici dans la province du Maniema. Il s'agit de quelle politique exactement?
Comme vous l'avez indiqué, il s'agit de la politique de l'agriculture durable et les pays migrent vers des orientations d'une agriculture qui respecte l'environnement, vers une agriculture qui stabilise la forêt.
D'où est parti ce constat? Pourquoi à faire cette politique?
Compte tenu du changement climatique qui n'est pas bon pour l'agriculture, la République avait déjà mis en place la stratégie RED. Et cette stratégie RED et les engagements pris avec l'initiative pour la forêt d'Afrique centrale, CAFI, le ministère de l'Agriculture a pris l'engagement d'élaborer une politique qui, au fait, renferme les orientations vers une agriculture qui respecte l'environnement, une agriculture qui doit quitter d'être moteur de la déforestation en République démocratique du Congo, et une agriculture qui non seulement elle sera pratiquée par les générations actuelles, présentes, mais qui préserve aussi les sols et l'environnement pour l'agriculture aux générations qui vont venir après.
Alors cette politique, quand est-ce qu'elle va entrer en vigueur dans notre pays?
La politique a déjà été adoptée par le gouvernement depuis 2023. En fait, il doit déjà être mis en place. Mais compte tenu de certains facteurs, le Maniema pourrait être peut-être la 8e, 9e province pour bénéficier de la vulgarisation. Il y a des provinces qui ont déjà connu la vulgarisation depuis 2024. Au moment où nous sommes en train de lancer la vulgarisation ici, il y a d'autres équipes qui sont en Bandaka dans l'Équateur et au Kasaï central pour faire le même exercice.
Qu'est-ce qui suivra après cette vulgarisation?
Ce qui suivra, les documents donnent des orientations et demandent aux provinces d'élaborer leur politique, leur stratégie de mise en œuvre au niveau de la province. Dans l'atelier, les participants ont déjà élaboré une ébauche de stratégie de mise en œuvre de la politique et ont même identifié les sources de financement pour la mise en œuvre de cette politique. Donc tout va très bien et l'agriculture est à décentraliser. On ne voit pas qu'est-ce qui va encore empêcher cette mise en œuvre.
Et comme vous demandez à la population d'émigrer, est-ce que vous allez également accompagner, donner des moyens là, à cette population de pouvoir respecter cette politique de l'agriculture?
Tout est prévu dans les documents. Actuellement, le gouvernement donne, par la campagne agricole, donne des intrants aux agriculteurs. Mais maintenant, avec cette politique, on va mettre le cadastre agricole, on va mettre l'assurance agricole, on va mettre le Fonds national de développement agricole, FONADA. Et il y a beaucoup d'instruments qui vont accompagner la mise en œuvre de cette politique pour que rien n'échappe au contrôle.
Est-ce que vous avez pensé à la population landa dans votre vulgarisation? Parce que si vous vous limitez seulement aux officiels, je pense que la population bénéficiaire de cette politique ne va rien comprendre.
Différemment à la note des politiques qui était destinée aux décideurs, la politique de l'agriculture durable s'adresse à tout le monde et exige même s'il y a des concertations à faire, même les vulnérables, les peuples autochtones, les femmes, les jeunes, tout le monde doit participer à la prise de décision. Et cette politique-là envisage la mise en place du Conseil consultatif national pour l'agriculture. Et ce Conseil consultatif qui donne des avis est représenté jusqu'au niveau des territoires, jusqu'au niveau des secteurs. Et vous ne pouvez rien faire sans impliquer toute la population.
Et qui vous finance?
La première source de financement, c'est l'État. L'État prévoit dans ses lignes budgétaires des ressources pour financer l'agriculture. Il y a le bailleur de fonds, BAD, Banque mondiale, qui au travers de différents projets financent le secteur agricole. Il y a les privés, il y a les associations. C'est tout le monde parce que l'agriculture concerne tout le monde.
Qu'est-ce que vous dites à toute la communauté qui vous écoute à ce moment, surtout dans des lieux où la vulgarisation de la politique de l'agriculture durable est en train de se dérouler?
C'est demander à toute la population de s'approprier cette politique d'agriculture durable parce que c'est avantageux pour eux, pour leur terroir, pour le Congo, la province, l'Afrique et même le monde parce que nous sommes les poumons du monde.
Monsieur Issa Saïdi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie,
madame. C'était notre invité Issa Saïdi Mairon qui s'entraîne avec Florence Kizalunga et c'est ce qui met fin à notre grande édition du journal du matin, coordonnée et supervisée par Polly Mouzalia et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengonsoalo. Vous pouvez encore réécouter ces journaux sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la radio de la paix avec Kaki Akewa.